Eh bien, bonjour tout le monde. Donc, je suis maître de conférence à l'université Jean Monnet à Saint-Étienne et je suis dans le département des sciences de l'éducation et plus particulièrement, donc, j'appartiens au laboratoire éducation, culture et politique, ECP. Et dans ce laboratoire, on a un axe spécifique sur politique et pratique de l'enseignement supérieur. Et dans cet axe, on a encore un sous-axe qui travaille sur les questions de la transition entre lycée et l'enseignement supérieur. Plus particulièrement, depuis quelques années, je m'intéresse plus particulièrement aux étudiants justement qui ont parfois des problèmes de légitimité à l'université, c'est-à-dire ceux qu'on appelle les étudiants qui ont un bac pro et un bac technologique. C'est essentiellement de ça, et ce titre, justement, se sentir légitime, c'est se sentir légitime, et il y a aussi le lien de quelle manière l'ensemble de la communauté éducative participe à ce sentiment de légitimité. Donc, le plan d'intervention va se passer comme ça. Je vais vous parler un petit peu de qu'est-ce qui fait que ce sentiment de légitimité est arrivé un petit peu, les éléments déclencheurs, la réflexion. Quelques mots sur le modèle de Tinto, parce que tout ce que l'on va travailler après va être un peu sur ce modèle-là. Ensuite, je dirai quelques mots sur le sentiment de légitimité, où l'on en est dans ce concept, il y a encore beaucoup de travail. Et puis après, je vais vous parler de deux recherches, l'une qui s'est faite à Saint-Étienne avec des étudiants de première année de droit et d'autres en sciences de l'éducation. Et puis, je vais vous montrer par un exemple, donc c'est une recherche que nous avons menée pour faire un rapport d'expertise auprès de l'ENEFS, donc c'est l'école normale de l'enseignement professionnel supérieur. Il semble, je vous dirai ça tout à l'heure exactement, et qui est sur Grenoble et qui est un dispositif spécifique pour accueillir des étudiants de bac pro à l'IUT. Voilà un peu, et puis après, bah, il y aura débat, questions. Alors, les éléments déclencheurs sont ceux-ci, c'est-à-dire que depuis quelque temps, on entend souvent les étudiants de bac pro n'ont pas leur place à l'université, ils n'y arrivent pas, etc. Et il y a effectivement dans certaines disciplines des chiffres assez dramatiques. Et vraiment l'élément déclencheur qui a fait qu'au niveau du laboratoire on s'est intéressé à ça, ça a été un courriel qu'a envoyé un des vice-présidents de l'époque de l'université qui envoie aux étudiants, à tous les étudiants de bac pro, un mail et en leur rappelant ceci, après une ou deux semaines de cours au sein de votre filière de formation à l'université Jean Monnet, nous souhaiterions faire un point avec vous sur les éventuelles difficultés que vous rencontrez. Donc déjà, les étudiants ne sont pas arrivés, ils sont déjà censés avoir des difficultés. Donc pour les étudiants qui, comme vous, sont titulaires de bac professionnel, il nous semble utile de présenter la réalité des études universitaires, donc prérequis, statistiques de réussite. C'est pour cette raison que nous invitons à une réunion d'information. Alors là, avec mes collègues, là, ça a été vraiment le summum en disant « mais on part déjà du présupposé qu'ils ne vont pas y arriver, on les stigmatise, on leur montre déjà qu'ils ne vont pas y arriver ». Donc ça a commencé à interroger, on a avancé un petit peu là-dessus. Et puis, il y a tous les discours que l'on peut entendre régulièrement un peu partout, des enseignants sur les étudiants de bac pro et éventuellement bac technologique qui n'auraient pas le niveau, qui n'ont pas certains acquis nécessaires pour réussir à l'université. Pour le dire vulgairement, un mot de ces étudiants qui n'ont rien à faire chez nous, quoi. Voilà. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas leur place ici à l'université. Mais on dit ça, mais on ne réfléchit pas derrière, savoir mais est-ce qu'on pourrait pas, est-ce que nous, enseignants, nous ne pourrions pas modifier quelque chose de nos pratiques? Est-ce que c'est eux qui n'ont pas leur place ou c'est nous qui ne les accueillons pas convenablement? Je vais faire un rapprochement qui est un petit peu bancal, mais c'est un peu comme si on se permettait de dire à des personnes en situation de handicap non valide, ben, on ne peut pas vous accueillir parce que vous n'avez pas votre place ici, parce qu'on n'a pas d'ascenseur quoi, pour vous accueillir. Donc aujourd'hui, c'est inconcevable. Ça l'a été à une époque. Hein, c'est-à-dire que de quelle manière l'institution peut se donner les moyens ou veut se donner les moyens pour accueillir des personnes, aussi bien au point de vue formation qu'au point de vue environnement, donc se donner les moyens. Donc la question est de savoir, est-ce que les bacs pro et bacs technologiques ont réellement leur place à l'université? Donc est-ce que c'est eux qui n'ont pas leur place à l'université ou est-ce que c'est l'université qui ne souhaite pas leur faire une place? Les enseignants donc, sont ceux qui sont légitimes pour évaluer le niveau des élèves, etc. Mais aussi, ce sont eux qui ont les possibilités de modifier ou pas leur pratique d'accueil et de pédagogie. Donc là, c'est pour répondre un petit peu à la question, le sentiment de légitimité est en lien et en interaction aussi avec les enseignants, mais pas que, et c'est ce que l'on va voir après. Alors, il y a aussi quelque chose, j'avais envoyé une étudiante de master qui travaillait... sur cette question-là avec moi, et elle était partie tout le début de premier semestre, et surtout les premières semaines dans le département de droit, en droit, et elle l'a rapporté dans son mémoire et dans son suivi, c'était un moment donné où... Et ça s'est fait à plusieurs reprises avec différents enseignants, hein, dans l'amphi... en droit est souvent assez rempli et l'enseignant qui, enfin, les enseignants, parce qu'il y a eu deux fois à deux moments différents, d'enseignants qui disent bon, l'amphi est plein, mais rassurez-vous, d'ici un mois, il y aura plus beaucoup d'étudiants. Et puis de toute façon, tous ceux qui n'ont pas un bac général avec une mention ont pratiquement aucune chance de réussir chez nous. Voilà. Donc les choses se posaient clairement. Alors ça aussi, ça fait partie. Je vous dis, ben, là, il y a une forme de stigmatisation. Mais une forme de réalité, parce que les chiffres sont quand même réels. Et c'est pas, quand je dis ça, c'est pas pour me moquer, c'est aussi des enseignants qui le font. Là, le vice-président, quand il avait dit ça aux étudiants, c'était réellement dans le but de les aider à trouver rapidement quelque chose d'autre pour éviter d'aller venir perdre une année à l'université. Donc c'est pas des gentils et des méchants de côté. Mais ceci, ça finit par se demander si réellement... les bacs pro étaient les bienvenus parmi nous. Alors, je me suis intéressé à savoir, mais en fait, est-ce qu'il y a eu une augmentation du nombre de bacs pro? Parce qu'on est tous en train de dire, oh, les bacs pro, il y en a de plus en plus, ou des bacs technologiques. Puis alors là, c'est quand même assez étonnant, c'est que les chiffres ne montrent pas d'augmentation des bacs pro. Parce que si on regarde ces chiffres, on s'aperçoit que le pourcentage d'étudiants ayant un bac pro à l'université est même en diminution depuis 2011. On avait pratiquement 9% d'étudiants en 2011 qui avaient un bac pro à l'université. Il y en a eu 8,6% en 2013 et aujourd'hui, en 2016, il y en avait 8%. Donc il y a eu une petite augmentation entre 2000 et 2010, puisque c'était 7% de 2000 et c'est monté à 2011, 9%. Par contre, en fait, là où vont en général les bacs pro, c'est en BTS, en STS, oui.
Non, c'est des chiffres pour la licence
Pour l'université, pour l'enseignement supérieur à l'université.
Donc, licence et master.
Licence, essentiellement licence.
Nationale.
Oui, ouais. C'est national. Alors après, effectivement, ces chiffres-là peuvent éventuellement cacher des disparités. Et dans certaines sections, avoir beaucoup plus de bac pro. Par exemple, en droit, il y a à peu près 20% de bac pro. Nous, on est en éducation, on est à peu près à 17-18% de bac pro, etc. Donc, et d'autres endroits où il n'y en a pratiquement pas. Souvent, le fantasme, c'est en mathématiques, où ils n'ont pas le niveau. Bah oui, c'est sûr que pour suivre une première année de mathématiques, ils n'auront sûrement pas le niveau avec les prérequis nécessaires. Mais en fait, c'est une toute petite minorité. Ils sont... même pas 1%, donc c'est assez dérisoire. Voilà, donc en fait, ce qui était important de voir pour moi, c'était qu'il n'y avait pas une invasion de bac pro. Et en même temps, on entend un discours de plus en plus prégnant autour de ça. Alors là, ça interroge et on se dit, mais en fait, est-ce que le problème n'est pas ailleurs et qu'on n'est pas en train de prendre sous forme de bouc émissaire une catégorie de personnes les plus fragiles, comme tout bouc émissaire, au lieu de poser peut-être d'autres questions? Et les autres questions que l'on pourrait se poser, effectivement, c'est la place de l'université dans le monde de la compétition actuelle que l'université doit vivre avec les grandes écoles. D'où les grandes écoles récupèrent les meilleurs éléments et l'université est ouverte à tous les étudiants, mais quand même dans une forme de compétition avec ces grandes écoles. La baisse drastique des moyens de l'université qui, depuis quand même pas mal d'années, ont des moyens constants avec un nombre d'étudiants globalement qui explose. Donc en fait, de moins en moins de temps disponible pour les étudiants, et que face à ça, eh bien, on est en train de retourner les difficultés en fait face à des étudiants qui eux-mêmes sont déjà en difficulté, hein, ont moins de possibilités que les autres. Mais au lieu de réellement contester ce que l'on est en train de vivre, eh bien, le retourner contre ces étudiants. Donc, là j'avais des chiffres, c'est clair, en 2018, en fait, à l'université, parce que en euros constants, la somme que l'on a par étudiant a pratiquement baissé de 10% par rapport à 2008. Et pourquoi ? Parce que même si le budget était pratiquement constant, il y a, avec le nombre d'étudiants que l'on a en pleine augmentation, le nombre réel de moyens par étudiant est en chute libre. Voilà, donc tout ça nous a amené avec mes collègues, donc j'ai deux collègues avec qui je travaille, il y a Jean-Yves Segui et puis Alexandra Léry, qui on travaille un peu sur ces questions. Donc voilà les éléments déclencheurs. Alors, pour pouvoir poursuivre, on va parler du modèle de Tinto. Pourquoi ? Parce qu'on va voir un peu, c'est un modèle qui va nous permettre de décrire la persévérance. Comment, quelles sont les variables qui font qu'un étudiant aurait tendance à persévérer ou à abandonner. On sait que la difficulté à l'université, c'est pour les étudiants, ce sont les décrocheurs, donc ceux qui, justement, ne persévèrent pas. Et donc, de quelle manière, je vais dire quelques petits mots sur ce modèle. Donc, Tinto a travaillé ça les premières fois, c'était dans les années 70, je crois que. Et puis, ça a été critiqué, retravaillé. Là, c'est la version de 92, elle a été retravaillée après. Là, c'est la version de 93. Et ça a été retravaillé là dernièrement, mais j'ai pas voulu. Les changements n'intéressent pas tellement sur le point que l'on va insister et sur lequel se trouve le sentiment de légitimité. En fait, il y a des caractéristiques de pré-admission, donc ça, le contexte familial, hein, catégorie socio-professionnelle, les attributs personnels, c'est cognitivement et compétences, etc. Et puis, les expériences scolaires antérieures, on sait que ce qui est le plus déterminant de la réussite à l'université, en fait, c'est le type de bac et la mention obtenue au bac. Si vous voulez être prédictif sur la réussite à l'université, c'est essentiellement ça. Bon, bien entendu, la catégorie socio-professionnelle qui va avoir un effet. Les attributs personnels, il n'y a pas tant que ça d'effet. De là, en fait, il va y avoir deux types de buts, des buts et intentions. Donc, il peut y avoir des buts, je pourrais dire. Soit de désir de vouloir étudier, donc ce qu'on appellerait la motivation intrinsèque, donc des étudiants qui viendraient pour étudier, pour le plaisir d'étudier, et puis d'autres qui viendraient à l'université, en fait, dans un objectif professionnel, et on pousse de plus en plus les étudiants à venir dans un objectif professionnel, et qui a tendance, d'après les études à développer des formes plutôt beaucoup plus de motivation extrinsèque, c'est-à-dire on n'y va pas pour le plaisir de venir à l'université, mais beaucoup plus dans un objectif, et donc c'est d'avoir la moyenne pour passer l'année suivante, puis l'année passant, je vais passer en master, pour pouvoir obtenir le diplôme professionnel que j'ai besoin. Et puis, donc il y a l'objectif engagement institutionnel, bon, je ne vais pas rentrer dans tout, sinon on ne va pas s'en sortir, engagement avec l'extérieur, donc quels sont bon, les étudiants, et aujourd'hui on l'a vu dans Parcoursup, avec les prérequis, et souvent on demande, bah, par exemple en sciences d'éducation, il y a des endroits où ils ont demandé des étudiants qui ont des engagements extérieurs dans des associations, le BAFA, ou des choses comme ça, qui vont avoir une influence aussi sur la suite. Là, c'est ça qui va nous intéresser, c'est l'expérience institutionnelle. Donc, il va se construire, quand l'étudiant va arriver à l'université, une expérience institutionnelle de deux manières. En fait, il y a le côté ici qui est une forme de socialisation, intégration académique, hein, qui est ici, avec un côté formel et informel. Et puis ici, plus bas, donc, une intégration sociale. Dans l'intégration académique, il y a le rendement scolaire, donc c'est les notes que l'on obtient au fur et à mesure, et puis l'interaction avec le personnel, eh bien, c'est justement tout ce qui va être en lien avec les enseignants, comment ils vont répondre aux sollicitations, l'engagement de l'enseignant et cette interaction qui va exister. Dans l'intégration sociale, donc c'est l'implication des étudiants dans les activités extracurriculaires et donc que les étudiants vont vivre avec les autres. Et donc il y a les activités quand même qui sont hors programme et à l'intérieur de l'université. Hein, donc là c'est les interactions des étudiants dans le cours ou dans les travaux de groupe. Et puis il y a les interactions avec les pairs, mais à l'extérieur aussi de l'université, donc l'intégration sociale. De cette socialisation à être un étudiant. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelait ici l'intégration scolaire et ici l'intégration sociale. Et puis les engagements, donc ça c'est ce qui va bouger sur les motivations, donc ils vont développer encore différents buts en fait, comme on a ici les buts et les objectifs, donc les types de motivation qu'on va avoir, hein, soit en vue de professionnel, ou soit de plaisir d'étudier, engagement avec l'extérieur aussi, qui vont se développer au cours de l'année universitaire, et puis la décision ou pas de décrocher en fait en fonction de tout ça, et ces interactions qui vont permettre ça. Alors, c'est un modèle interactif, hein, et il y a eu donc pas mal d'études à partir de ce modèle qui a été largement étudié et réétudié à plusieurs endroits. Et donc, en 2014, Schmitz et compagnie donc, ont essayé de comprendre dans ce modèle, en fait, de montrer dans ce modèle auprès d'étudiants en Belgique, de se rendre compte, est-ce que auprès de 5000, il y avait 5000 étudiants, donc quels étaient les éléments les plus explicatifs de la persévérance à l'université. Et qu'est-ce que l'on s'aperçoit ? On s'aperçoit que le passé scolaire explique énormément à 26% le type de but poursuivi. Mais ce qui va faire réellement réussir sur les étudiants, en fait, c'est l'intégration sociale et l'intégration académique à pratiquement 30%, qui vont avoir un effet sur l'engagement institutionnel, comment l'étudiant va s'engager dans son cursus, et qui va avoir une explication pareille à 28% sur l'intention de persévérer ou pas. Ce qui fait qu'il se passe quelque chose d'extrêmement important, qui est ici autour de l'intégration sociale et de l'intégration académique, pour déterminer si les étudiants sont bien ou pas pour pouvoir poursuivre. Et c'est de là où l'on va s'intéresser en fait à ce sentiment de légitimité. Pourquoi ? Parce que dans cette intégration sociale et dans cette intégration académique, c'est là où l'étudiant va sûrement percevoir ou pas qu'il a sa place ou non à l'université. Donc je vais d'abord vous donner quelques mots sur le sentiment de légitimité. Alors, tout d'abord, ce concept, pour nous, est un concept que l'on est en train de construire, hein, donc il est loin d'être terminé. Ça fait un peu plus de 2 ans qu'on est dessus, et avec la rapidité que l'on a aujourd'hui, c'est-à-dire le peu de moyens pour la recherche réellement, et du temps à la recherche quand on est maître de conférence, et jeune maître de conférence, moi ça fait 5 ans que je le suis, même si je suis plus âgé, mais voilà, les 3 premières années, moi j'ai passé du temps essentiellement à préparer les cours, et là ça fait 2 ans où je suis déjà un petit peu plus à l'aise. Mais en fait, ce sentiment de légitimité, donc on travaille dessus. Et donc pour nous, ce concept qui est en construction, ça serait, en gros, pour le résumer, hein, la manière dont les étudiants perçoivent leur place au sein de l'université. Ils sont légitimes à être à l'université pour la bonne raison qu'ils ont le bac, donc ils sont légitimes comme les autres. Mais il se passe quelque chose, et donc on va s'intéresser, donc... ce sentiment de légitimité se construirait donc pour nous avec les interactions informelles que l'étudiant va partager avec les autres étudiants, c'est les pairs, et le personnel enseignant, mais aussi de l'université en général. Alors si je reprends la figure, le modèle de Tinto, en fait, on se situe ici sur les interactions avec les pairs et ici sur les interactions avec le personnel de la faculté. On est plutôt dans le monde de la subjectivité. Oui.
Les interactions, elles sont nécessairement dans le cadre informel. Qu'est-ce que vous entendez par cadre informel ?
Au niveau de... c'est toutes les interactions avec les autres étudiants. Mais il y a aussi, hein, là je ne l'ai pas mis, mais dans les activités aussi des cours, voilà. Mais c'est aussi les interactions, comment l'étudiant se sent à sa place, mais avec les autres, c'est-à-dire est-ce qu'il se sent au même niveau que les autres, est-ce qu'il est en interaction, est-ce qu'il a réellement des liens avec les autres, ou est-ce que c'est des étudiants qui vivraient quelque chose à part des autres.
Mais par exemple avec le personnel de la faculté, on dit que c'est informel, ça veut dire que c'est en marge des...
Non,
des
c'est séances, les... Non, c'est... non, pas du tout. C'est pas, faut pas prendre informel le sens. Mais vous avez, vous êtes enseignant, il y a, je pourrais dire, la distance que l'on met, mais il y a aussi le travail de proximité que l'on peut faire ou pas avec un étudiant. Donc l'accompagnement, l'engagement de l'étudiant et l'engagement de l'enseignant aussi envers les étudiants. Je ne sais pas si c'est un petit peu plus clair. Voilà, et donc le sentiment de légitimité va se retrouver, on va étudier surtout ces interactions ou ces perceptions, comment ces personnes perçoivent que ces étudiants-là auraient ou n'auraient pas leur place à l'université. Et c'est ce que l'on a tenté de faire lors de notre première recherche à l'université Jean Monnet. Donc ce que l'on voulait chercher, c'était à savoir est-ce que la manière, en fait, on voulait savoir est-ce que la manière dont les étudiants de première année et au cours de la première année percevait la place, la probabilité de réussir la première année en fonction du type de bac, de la mention obtenue et de l'engagement, donc la motivation, l'engagement, l'investissement dans la formation. Alors ce qu'on voulait vérifier, c'était est-ce que les étudiants en arrivant à l'université donc qui arrivent avec des bacs différents, hein, mais bon, la grande majorité en sciences d'éducation, c'est le bac ES, bac L de temps en temps, quelques bacs S, et puis des bacs pro et des bacs techno qui viennent rejoindre. Et puis en droit, on a à peu près le même type de population. C'est pour ça qu'on a choisi ces deux départements. Et on a choisi également aussi ces deux départements pour une autre raison, c'est que ils ont la particularité de ne pas avoir de prérequis scolaires antérieurs indispensables. C'est-à-dire qu'il faut savoir lire, écrire, compter. C'est-à-dire que si c'était en mathématiques, il faut quand même avoir un certain niveau dans cette matière-là que l'on fait depuis la maternelle, si je pourrais dire. Du droit, la majorité des étudiants n'ont jamais fait, et des sciences de l'éducation, personne n'en a jamais fait. On aurait pu faire aussi avec nos collègues de sociologie, mais il s'est avéré qu'on préférait le droit. Pourquoi ? Parce que si les étudiants ayant un bac pro réussissent à peu près, il y a à peu près 28%, là je les ai pris ici, 28% des étudiants réussissent en sciences de l'éducation. Nous avons 0% d'étudiants qui réussissent, pas des étudiants qui ont des bacs pro réussissent en droit. Donc on voulait vérifier de quelle manière un peu s'il y avait des perceptions différentes de la place de ces étudiants dans ces départements. Donc voilà pourquoi on a choisi ces deux départements, sciences d'éducation et droit. Après, comme tout le monde sait, à l'université, il y a des hiérarchies aussi des disciplines, hein, et donc le droit qui se voudrait au niveau hiérarchique être supérieur aux sciences de l'éducation. Alors, comment ça s'est passé? La population, l'étude s'est faite auprès de 325 étudiants en licence première année. Donc on l'a fait sur d'autres, là je vous présente cette partie-là qu'avec les étudiants de première année, parce qu'on l'a fait aussi avec des étudiants de deuxième année et troisième année pour voir la différence. Je ne vais pas vous présenter là. Donc il y avait 170 étudiants en sciences et éducation et 155 étudiants en droit. 228 étudiants au premier semestre, sur l'ensemble, et 97 au deuxième semestre. Parce qu'il y a eu un temps 1 et temps 2. Sur l'ensemble de la population, donc il y avait 265 étudiants qui ont un bac général, donc répartis essentiellement avec des bacs ES, et aussi bien en droit que pour nous, en sciences de l'éducation. Donc bac ES, bac S et bac L en tant que bac général, et puis bac pro et bac technologique, mais très diversifié. Alors, tout cette recherche s'appuie sur la théorie fonctionnelle de la cognition d'Anderson, donc qui est un moyen de modéliser, de comprendre en fait de quelle manière on évalue quelque chose, c'est-à-dire de quelle manière on essaye de voir. Donc Anderson montre que quand on se fait un jugement de quelque chose, on le fait en fait sous forme soit de moyenne, soit de somme, soit de multiplication, soit de soustraction, voilà. Qu'en général, on utilise sur des systèmes en fait de moyenne, et donc il y a un outil au niveau de la théorie fonctionnelle de la cognition, et il y a la méthode de la mesure fonctionnelle, et je vais vous en dire quelques mots, je ne vais pas rentrer tout à fait dans tout ce détail, et si vous êtes intéressé, je développe ça dans le cadre de ma thèse, pour laquelle j'avais travaillé avec cet outil. Mais pour autre chose, c'était la manière dont les travailleurs sociaux évaluent la nécessité d'aider des personnes en demande d'hébergement. Donc je vais vous parler un peu de l'outil. On a construit en fait un petit outil, donc un petit carnet avec des petites vignettes fictives. Donc il y avait trois facteurs retenus. Donc pourquoi on avait retenu ces trois facteurs? Le bac, parce que comme je vous ai dit, la connaissance du type de bac va être beaucoup plus influent. Disons que le type de bac influence beaucoup plus sur la réussite que tout le reste. Donc en choisissant un bac pro, bac technologique et bac S, donc on va construire des vignettes à partir de ces trois modalités. Après je vous montrerai des exemples de vignettes. Facteur mention, pourquoi? Parce qu'on sait que la mention a aussi un effet est prédictif de la réussite, donc un étudiant qui n'a pas eu de mention, mention assez bien et mention très bien. Et puis, le facteur investissement, parce qu'on sait que si l'étudiant n'a pas un minimum d'investissement dans sa formation, eh bien, il ne va pas y arriver. Donc, n'est pas investi, est moyennement investi et est très investi. Alors, pour Anderson, il y a deux conditions incontournables pour que ça puisse fonctionner pour faire les vignettes. C'est qu'il faut que toutes les combinaisons soient représentées. Et l'autre, c'est que les réponses se fassent sur une échelle linéaire non graduée. Donc, au lieu de, je vais vous montrer plus comment se passe une vignette. Donc, c'est un petit carnet. Il y a 27 vignettes, parce que ça fait 3 x 3, 9 x 3, 27. Ça fait 27 vignettes. Et on leur demande de répondre à ce type de questions. Donc, Paul vient intégrer une licence en sciences de l'éducation et on apprend les informations. Donc, il a un bac professionnel avec une mention assez bien. Il est très investi dans sa formation. Pensez-vous qu'il peut réussir son premier semestre? Et les étudiants répondent de non à oui, ou ils volent sur cette grille-là en faisant une croix. Alors, ça a l'avantage, ce genre d'outil, c'est un avantage de travailler sur la subjectivité. Alors, il y a deux types de passations. Hein. Il y a une première passation où les étudiants s'entraînent. Donc, on passe un premier carnet où on s'entraîne. On peut revenir en avant, en arrière, autant de fois qu'on veut. En fait, pour construire soi-même sa propre subjectivité sur les choses. Et puis, un deuxième temps, on enlève donc ce carnet-là et on en donne un et on n'a plus le droit de revenir en arrière. Bon, c'est pas dans le même ordre. Et puis, la majorité des gens sont persuadés que ça revient, je ne sais pas combien de fois, parce qu'il y a très peu en fait de différence. Alors là, je vous ai mis un deuxième exemple. Voilà, donc Paul, c'est toujours pareil. Hein, Paul vient intégrer et on change les variables. Là, il avait un bac scientifique sans mention. Il est moyennement investi dans sa formation. Pensez-vous qu'il peut réussir son semestre? Et donc, subjectivement, on répond ça. Alors, ce que l'on voulait savoir, c'était, bien entendu, est-ce qu'il y avait, dès l'entrée à l'université, déjà une connaissance de l'effet du bac? Est-ce que les étudiants ont déjà conscience que des étudiants, en fonction de leur bac, pourront réussir ou pas? Et puis, la place, ce qui nous intéressait essentiellement, c'était la place de l'investissement. Est-ce que les étudiants pensent qu'un étudiant qui a un bac pro, qui est sans mention, qui est très investi, peut aussi avoir, peut réussir ou pas son semestre? Et puis, bah, comment ça évolue au cours du semestre? Entre le semestre 1 et le semestre 2, et la grande différence entre les deux, bah, c'est les résultats du semestre 1. Voilà, c'est là le passage. Donc, qu'est-ce qu'on obtient comme résultat? Là, c'est bac avec les trois types de bac, mention avec les trois types de mention, et investissement avec les trois types d'investissement. Et si on prend, alors on le fait de manière statistique, hein, on ne le fait pas comme ça, mais si pour l'imager, je prends toutes les vignettes où il y a bac pro, et je fais la moyenne sur les 325 étudiants répondus, on a en fait que l'ensemble des bacs pro obtiennent 83,10, c'est des millimètres. En fait, je mesurais la distance entre le non et le oui, et donc plus la distance va être grande, plus les étudiants pensent que les étudiants vont réussir. Et on s'aperçoit qu'il y a bien un effet de bac, parce que c'est significatif là, entre bac pro, bac techno et bac S. C'est-à-dire que les étudiants ont conscience que les bacs pro ont moins de probabilités de réussir leur bac que les autres. Pareil sur la mention, hein, donc les étudiants pensent bien que les réussites antérieures ont un effet sur la réussite à l'université. Mais vraiment, l'effet qui est le plus important, c'est celui de l'investissement. Ils sont tous conscients que quelqu'un qui n'est pas investi n'a aucune chance et il faut être très investi pour pouvoir réussir à l'université. Donc on peut retirer de ça que l'investissement pour les étudiants, s'investir dans sa formation est primordial, plus que tout, même si les autres ont quand même un effet. Là, qu'est-ce que l'on a comme résultat? On a le résultat de toutes les vignettes, des 27 vignettes différentes. Donc là, bac, mention et investissement. Là, c'est un étudiant qui a un bac pro, qui a une, qui n'a pas de mention et qui n'est pas du tout investi et qui a une moyenne de 19 millimètres là. Et puis, on a l'extrême... je sais pas avec l'extrême. Donc là, on a le même étudiant, mais qui n'est pas investi et qui n'a pas eu une mention, mais qui a eu un bac S. Et on s'aperçoit qu'il y a un écart entre les deux, d'une trentaine de millimètres entre les deux. Un étudiant de bac pro qui est très investi et qui a eu une mention très bien, obtient 152 mm, ce qui permettrait pratiquement de penser que tout le monde pense qu'il doit pouvoir réussir. Mais on a quand même l'étudiant qui a le bac S qui obtient une moyenne supérieure. Alors, ces mêmes résultats sont mis ici sous forme de graphique. On s'aperçoit que les étudiants qui ne sont pas du tout investis n'ont aucune chance. Tous les étudiants pensent qu'ils n'ont aucune chance, et ça, quel que soit le bac. Là, ça commence à être intéressant, c'est dans le moyennement investi. On s'aperçoit qu'un étudiant qui serait moyennement investi, qui aurait eu une mention très bien et qui aurait eu un bac S, c'est en vert ici, pourrait éventuellement penser réussir son année. C'est-à-dire que la moyenne était à plus de 90 et quelque chose comme ça. Donc là, on arrive au-dessus de la moyenne. Et puis, que tous les étudiants qui seraient très investis, en fait, doivent pouvoir réussir leur année, et ceci quel que soit le bac et leur ancienneté. Hop, pardon. Voilà. Alors là, c'est les résultats des étudiants en fonction du type de bac qu'ils ont. Donc ça, c'est ce qu'ils évaluent, hein, des étudiants qui auraient un bac pro, un bac techno ou un bac S. Et ça, c'est le bac obtenu par les étudiants qui évaluent. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a les bacs S, bac L et bac ES, en fait, ici, qui évaluent les bacs pro avec moins de possibilités de réussir que s'ils avaient un bac technologique que s'ils avaient un bac S. Et ce qui est très intéressant, c'est que les bacs techniques et les bacs pro ne sont pas conscient au même titre que les autres de ça, et donc c'est ce qu'on appelle se survalorisent et sont beaucoup plus sûrs que les autres qu'ils auraient la possibilité de réussir. Et donc qui est ici où eux ils se surévaluent et ne donnent pas autant de crédit que ça au bac S que les autres. Voilà. Donc ça c'est déjà un petit truc qui est extrêmement important. Si on regarde de par discipline, entre les sciences de l'éducation et le droit, on s'aperçoit que ici c'est le droit. Alors on ne va pas regarder cela parce qu'il faut aller un petit peu vite. On s'aperçoit que les étudiants de droit et de sciences de l'éducation, il y a une sacrée différence. C'est-à-dire que les étudiants de droit pratiquement pensent que avoir un bac pro, même si on est très investi et c'est bien, on a quand même beaucoup moins de... quand on n'a pratiquement pas beaucoup de chances d'avoir son année par rapport à un bac S de la même catégorie. Et on voit que là, c'est beaucoup plus droit, vertical, que chez les sciences de l'éducation, où on a un écart seulement de 20 mm entre le bac pro et le bac S, alors qu'on a un écart donc, de plus de 50 mm entre le bac pro et le bac S, pour les étudiants de droit. Donc les étudiants de droit, très vite, perçoivent que les étudiants de bac pro n'auraient pas tellement de chances de réussir. Alors là, on essaye de regarder entre le semestre 1 et le semestre 2 en droit, et puis après on va le voir avec les étudiants de sciences et éducation. Ce qui est très intéressant, c'est ça. C'est-à-dire, on va regarder surtout celui-là, toujours les étudiants très investis. On s'aperçoit que les étudiants en droit au premier semestre évaluent plus favorablement de pouvoir obtenir son semestre, quoi, son année, parce qu'on posait le semestre, et puis après on parlait de l'année pour deuxième semestre. Et en fait, on s'aperçoit que au deuxième semestre, la cotation est moindre. C'est-à-dire que les étudiants, après les résultats, disent « Ouh, c'est pas si évident que ça ». Et quand on regarde ici en sciences de l'éducation, on s'aperçoit que c'est le contraire. Les étudiants, après le premier semestre, eh bien, après les résultats se disent, eh bien, on a des possibilités, il y a des possibilités. Et là, ce qu'on s'aperçoit, c'est ça, c'est-à-dire que les étudiants qui ont un bac pro, eh bien, au deuxième semestre, sont encore mieux vus qu'au premier semestre. Donc là, c'est qu'il se passe quelque chose à l'intérieur de ces groupes. Et bon, l'hypothèse que l'on émet, c'est justement l'ambiance et ce qui est fait à l'intérieur, là, des travaux de groupe, pas de compétition, mais plutôt de la collaboration, etc. Pas de discrimination. Par exemple, on s'est maintenant interdit de demander aux premiers. Souvent, les étudiants, quand ils arrivent en TD, on leur demande les premiers TD, ce qu'ils ont fait, etc. Maintenant, on s'interdit complètement de dire ça, parce qu'on s'était rendu compte que les étudiants qui avaient des bacs pro et tout avaient tendance soit à se regrouper entre eux ou ne pas se rentrer et peut-être d'autres avoir un peu des stigmates sur les bacs pro, de se mettre un peu en recul, etc. Et en fait, tout ça peut être les effets de ce sentiment de légitimité qui se construit au cours du semestre, hein, entre le semestre 1 et le semestre 2, mais qui a aussi un effet avec les résultats. Nos étudiants qui ont des bacs pro réussissent aussi souvent leur premier semestre, hein, qui on sait que c'est le plus difficile. Alors on peut se poser toujours plein de questions, on peut se poser des questions, savoir, mais est-ce que... c'est parce que vous êtes trop gentil ou je sais pas quoi. Et en fait, ce qui était très intéressant, c'est que, bah, comme beaucoup à l'université, on nous a obligés ces derniers temps de faire des troncs communs, surtout sur le premier semestre. Et en fait, on s'apercevait que les étudiants de sciences de l'éducation, globalement, réussissaient mieux que les autres. Et ils n'étaient pas plus mauvais que les autres quand on les met ensemble. Voilà. Donc en fait, il y a un niveau à peu près équivalent aux autres. Donc il y avait sociologie, histoire, géo, etc. Et que nos étudiants réussissaient aussi bien que les autres. Donc il n'y a pas une survalorisation de nous. C'est essentiellement une autre manière peut-être de travailler. Alors justement, c'est cette autre manière de travailler que je vais vous présenter dans les trois dernières minutes qui me restent. Et c'est l'exemple à l'ENEPS, donc ce dispositif spécifique qui a été fait pour des étudiants de bac. Alors, l'ENEPS, qu'est-ce que c'est ? C'est l'École nationale de l'enseignement professionnel supérieur qui appartient à l'IUT de Grenoble. Et c'est un dispositif qui a été fait, un dispositif spécifique pour des étudiants de bac pro. Alors, ça existe un peu partout. Mais souvent, ces dispositifs-là, c'est une année de plus. Donc on demande aux étudiants, la première année, un genre de prépa avant de rentrer à l'IUT. On l'a à Saint-Étienne, on a très peu d'étudiants, et ça ne marche pas obligatoirement très très bien. Pourquoi il y a très peu d'étudiants ? Parce que les étudiants de bac pro, beaucoup viennent de milieux relativement populaires, et il y a quelque chose de très pragmatique. J'ai un bac pro. D'aller faire un IUT, ça m'intéresse, mais si on me le propose en 3 ans, j'ai peut-être plus intérêt d'assurer à faire un BTS, puis une licence pro, que de me risquer de faire une année de prépa et éventuellement... que l'ENEPS propose ce dispositif en 2 ans, comme les autres, mais seulement avec une première année spécifique. Donc en fait, il y a 70 étudiants sur 4 filières, donc on voit qu'il y a quand même peu d'étudiants par filière, hein, c'est que des étudiants qui ont le bac pro, donc génie électrique, informatique, je sais pas quoi, réseau, télécom, génie de construction durable et génie mécanique productique, voilà. Et donc c'est une première année spécifique pour ces étudiants, et puis ces étudiants vont en deuxième année avec les autres. Ça, c'est intéressant parce qu'on pourrait dire, bah, sinon, c'est un DUT au rabais. Et là, ce n'est pas un DUT au rabais puisqu'ils vont en deuxième année, ils se retrouvent avec tous les autres étudiants. Voilà. Donc, c'est un projet IDEFI. Et ils ont 80, en moyenne 80% des étudiants de bac pro qui obtiennent leur DUT, dont certains sont admis ensuite en école d'ingénieur. C'est-à-dire que des étudiants de bac pro qui, on leur donne à un moment donné quelque chose de plus, qui finissent par arriver, à raccrocher un peu les wagons et intégrer des écoles d'ingénieurs. Donc nous, notre travail, en fait, on a été demandé par, dans le cadre justement d'un peu de l'évaluation de ce dispositif-là, essayer de comprendre quels sont les phénomènes qui fonctionnent. Et donc il y avait l'évaluation de ce dispositif, et puis pour nous c'était aussi d'avoir une démarche de production de savoir, en fait, de comprendre un peu mieux sur cette transition secondaire supérieure. et de comprendre la réussite de ces étudiants. Lorsque l'on a, par exemple, au semestre 3 et 4, donc c'est la deuxième année, donc les étudiants sont avec les autres, donc on a des étudiants de bac professionnel qui, au semestre 3, ont 10,6 de moyenne et les bacs généraux ont 12,72, sachant que les bacs généraux, en général, ont un bac S dans la grande majorité. Mais on s'aperçoit qu'au S4, lorsque, en plus, au S4, il y a des stages, en fait, les bacs pro réussissent relativement bien et pratiquement au même niveau que les bacs technologiques. Et que, donc, les étudiants, en général, quand ils arrivent en deuxième année, finissent par arriver et avoir leur diplôme. Donc, pour faire cette étude-là, il y a eu trois procédures, hein, je vais aller très vite, un questionnaire à deux temps, en première année puis en deuxième année, des observations des commissions de recrutement, parce qu'on pourrait dire, oui mais vous recrutez, les IUT sélectionnent leurs étudiants, donc là c'est pareil, ils sélectionnent, et puis des entretiens auprès de 8 enseignants de l'ENA, de l'ENEPS. Alors, les enseignants qui travaillent à l'ENEPS sont tous des enseignants de l'IUT, mais volontaires. Voilà. Dont certains, aujourd'hui, vous ne les ferez pas revenir en arrière, et d'autres qui ont dit non, c'est pas mon truc, et ils sont partis, etc. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est ça qui va être intéressant. Qu'est-ce qui explique la réussite et qu'est-ce qui se passe? En fait, je vous passe la méthode pour pouvoir vous dire tout ça. En fait, les questionnaires étaient entièrement à partir d'échelles validées, etc. Mais l'engagement des enseignants, en fait, l'attention des enseignants aux besoins des étudiants est un des facteurs principaux de la réussite des étudiants. C'est-à-dire comment eux, ils l'expliquent essentiellement comme ça au niveau des étudiants. Une ambiance collaborative et non compétitive, ça c'est la règle. Et qu'on le retrouve un peu partout, hein. Tout ce qu'on va dire là, il n'y a rien de... des travaux de groupe qui sont les facteurs, en fait, explicatifs de cette réussite. Alors, qu'est-ce qui fait que les enseignants sont engagés? Parce que l'engagement des enseignants... En fait, il y a, quand on a fait là sur les... auprès des enseignants qui sont vraiment... engagés dans ce dispositif, en fait, c'est un retour d'ascenseur. On s'aperçoit que la grande majorité sont eux-mêmes passés par des périodes un peu chaotiques dans leur vie, n'ont pas obligatoirement une trajectoire linéaire au niveau de l'école. Et donc, c'est une forme, ils le disent, hein, moi, j'ai envie de rendre ce qu'on m'a donné, quoi, à un moment donné, redonner la chance à des gens, on m'en a donné aussi. La défense de la démocratisation, tous ont cette valeur-là de dire « mais tout le monde, on est dans aujourd'hui une société de la connaissance, si on veut évoluer, c'est la société de la connaissance, et donc la démocratisation, tout le monde a le droit d'accéder à l'université et à la connaissance ». Et puis, il y a aussi derrière des défis pédagogiques où des enseignants disent bien, moi, ce qui m'a intéressé quand je me suis investi là-dedans, c'était de modifier ma pédagogie, modifier ce que je faisais. Je n'étais pas satisfait de ce que je faisais en grand groupe ou en TD, même si les TD sont moins importants, etc. Alors, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans cette pédagogie? Et on a appelé Amplexipole, ça c'est un collègue qui est, hein, et qui en fait a un système d'enveloppe, en fait. C'est une pédagogie de l'enveloppe, c'est-à-dire qu'il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans, c'est juste protéger et une pédagogie où on va prendre beaucoup plus de place au conatif qu'au cognitif, donc l'engagement, la motivation des étudiants, où en permanence on va tenir les étudiants pour qu'ils restent engagés dans leur formation. Les enseignants de l'ENEPS vont avoir en fait des pratiques, mais vous allez voir, il n'y a rien de révolutionnaire là-dedans. De nombreuses évaluations, donc ça, des évaluations régulières et dès le début, c'est-à-dire qu'on n'attend pas, comme malheureusement on prie à l'université à donner des premières notes qu'en février, alors que l'année universitaire s'arrête au mois d'avril. Des études surveillées, donc on met des étudiants au travail. Des choses alors qui peuvent paraître scolaires, terribles, mais pas dans un but de contrôle, par exemple sur la vérification des classeurs, quand on était en entretien et qu'ils nous disaient « vérification des classeurs, c'est quoi ?» Ça paraît toujours... En fait, ils sont clairs, c'est de dire qu'ils ont besoin d'acquérir des pratiques qu'ils n'ont pas eues d'autre part, ils sont habitués à ce genre de motivation un peu extrinsèque, mais on les prépare à autre chose. C'est pas dans le but de ça, mais et ça leur permet de réussir, et en réussissant, ils se tiennent engagés, etc., et on arrive à le faire maintenir là-dessus. Un travail pédagogique collectif, donc une équipe pédagogique restreinte, un directeur d'études spécifique, une certaine liberté pédagogique, donc ça va s'adapter au plus près des étudiants, la régularité, pas de changement d'enseignement, des emplois du temps réguliers, des petits groupes. Je ne me souviens plus ce qu'il disait quand c'était approche culturelle, ce qu'on va laisser tomber. Enseignement concret aussi, où ils vont tenter de transformer des concepts par des choses très concrètes. Mais en fait, ils vont réussir à faire acquérir aux étudiants de l'abstrait à partir du concret, une bienveillance des enseignants et la conviction du projet. Donc en gros, je crois dans ce que je fais et je réussis. Alors ça, tout ça, c'est très bien, mais va poser la question de la poursuite, parce que tout à l'heure j'entendais aussi comment, une fois que le projet va se terminer, comment ça va se poursuivre et comment on peut le répliquer ailleurs. Et là, ça va poser problème, parce que quand ça repose sur l'engagement des enseignants et qu'il n'y a pas un savoir technique, etc., on a quand même des difficultés. Donc le dispositif fonctionne grâce à l'investissement des enseignants, l'adhésion et politique du projet. L'approche pédagogique qui l'accompagne, donc la bienveillance, la mise au travail et le passage par le concret. Voilà, donc tout ça vient réinterroger, comme on a eu beaucoup, hein, des dispositifs qui fonctionnent super bien, mais comment on va pouvoir le prolonger et peut-être de quelle manière va-t-on pouvoir continuer à donner des moyens de pouvoir fonctionner sur ce genre de choses. Je vous remercie, j'ai dépassé de plus de 5 minutes. Mais j'ai pu vous faire un petit peu le tour de tout ce que j'avais à vous dire, et maintenant je suis prêt à répondre à toutes vos questions.
Merci beaucoup.